7h45, le débat éco du vendredi. Dominique Seux, Thomas Piketty pour croiser le fer sur deux sujets d'actualité. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Le premier sujet est tout chaud, l'accord à gauche en vue des législatives, validé cette nuit par le Conseil national du Parti Socialiste, PS, Vert, Communiste, allié désormais avec les Insoumis. Alors on a beaucoup parlé à raison des négociations sur les circonscriptions, mais il y a aussi un volet programme dans cet accord, programme économique notamment. Je vous donne quelques mesures. Droit à la retraite à 60 ans, SMIC à 1 400 € net, blocage des prix de certains produits, planification écologique, rétablissement et renforcement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Dominique Seux, comment est-ce que vous qualifiez ce programme ?
C'est un programme électoral pour avoir des circonscriptions en premier lieu. Thomas Legrand, je crois, c'est hier ou avant-hier, avait dit ce programme, cette plateforme, c'est un tableau Excel. Un tableau Excel pour afficher des circonscriptions. Donc je pense qu'il ne faut pas donner malgré tout trop d'importance au fond par rapport à la forme. Vous savez, on dit souvent la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Là, c'est plutôt la forme.
C'est-à-dire si vous balayez ces propositions ?
Non, pas du tout. Parce que, alors, vous avez mentionné un certain nombre de sujets sur la quasi-totalité des sujets, sauf sur l'impôt sur la fortune. Il y a 3 semaines encore, le Parti Socialiste et la France Insoumise n'étaient pas d'accord sur ces sujets-là. Donc on est vraiment, c'est la première fois. Mais il y a un point commun, me semble-t-il, sur cette plateforme, c'est la compétitivité de l'économie n'est plus une priorité. En tout cas, ça n'est pas la tradition, y compris du Parti Socialiste, c'est-à-dire c'est l'économie qui fait le social. La croissance qui permet de redistribuer, de faire plus de solidarité, d'accorder plus de droits. Là, manifestement, le sujet n'est plus du tout central. Et d'ailleurs, la meilleure illustration en est que il y a peu de choses très concrètes. On parlera de la retraite à 60 ans. Oui. Mais il y a une chose très concrète qui est l'effacement, la suppression de la loi El Khomri, qui avait créé beaucoup de débats. J'ai regardé, c'est assez intéressant, les créations d'emplois avant et après la loi El Khomri. Naturellement, tout n'est pas lié à une loi par définition. Mais entre 2012 et 2016, loi El Khomri, vous avez eu 250 000 créations d'emplois en France. Donc début du quinquennat de François Hollande. 2016-2021, vous avez eu 1 million de créations d'emplois. Donc il y a quelque chose quand même.
Elle a eu un effet, c'est ce que vous nous dites.
Non, mais je pense qu'il y a eu un effet. On est en récession en Europe, ça n'a pas de sens.
Enfin bon, Thomas Piketty.
Non mais je veux pas revenir là-dessus. Moi je pense d'abord que c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie française, la démocratie européenne, le fait qu'on ait une union des forces pour avoir des alternatives qui sont proposées lors des élections législatives. Et moi je voudrais commencer par dire ça, c'est-à-dire que vous savez, aux dernières élections législatives en 2017, la participation est tombée à 50%, le plus faible niveau depuis 2 siècles, depuis la Révolution française. Donc la question c'est, est-ce qu'en 2022 on va faire encore pire, ou est-ce que les électeurs comprennent que les élections législatives, c'est là qu'on va voter les budgets, les lois de financement de la sécurité sociale, le fait qu'il y ait une union à gauche, une union au centre droit, je ne sais pas ce qui va se passer à l'extrême droite, ça clarifie le débat, et je pense que c'est ça d'abord le plus important. Après, sur le fond, Dominique nous dit, la gauche ne se soucie plus de l'économie, de la compétitivité. Excusez-moi, Dominique, mais là, on est vraiment dans la caricature. Vous avez, dans ce programme, je vois, il y a plein de choses imparfaites, on peut en discuter, mais il y a des propositions pour investir dans la formation, qui est vraiment la clé de la prospérité future, et je l'ai déjà beaucoup dit, mais c'est vraiment le grand gâchis du quinquennat, et même des 2 quinquennats qui s'achèvent, c'est cette baisse de l'investissement
dans l'enseignement supérieur. C'est un
sur les
programme
entreprises,
qui fait une page et demie.
Sur les entreprises. Alors, si vous voulez me faire dire, il aurait mieux fallu qu'ils discutent avant. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire que là, effectivement, ils ont dû en très peu de temps.
Est-ce que tout était contradictoire entre
Dominique,
les principales forces?
Dominique, si
il y a encore 3 semaines.
Laissez-moi finir. Si je compare par rapport au programme d'Emmanuel Macron, il est plutôt plus détaillé. Voilà ce qu'on peut dire. Donc il y a un certain nombre de choses. Donc attendez, j'ai pas fini sur les entreprises et la compétitivité. Alors vous allez défendre le programme d'Emmanuel Macron ensuite.
Thomas
va aller au bout de son raisonnement, vous répondrez.
Sur la question des entreprises et de la compétitivité, il y a une proposition qui figure en très bonne place dans l'accord entre le PS et LFI, le texte est disponible en ligne, chacun pourra le voir, c'est l'augmentation et la généralisation de la présence des salariés dans les conseils d'administration des entreprises, qui est quelque chose qui existe en Allemagne et en Suède depuis les années 50-60, qui est une excellente chose. Pourquoi ? Parce que ça permet d'impliquer les salariés dans les stratégies d'investissement à long terme des entreprises. Et toutes les études, tous les éléments dont on dispose montrent que c'est une des forces du modèle industriel allemand-suédois, c'est cette implication l'indemnisation des salariés. Donc, Dominique, je sais que vous êtes contre cette proposition, ça vous intéresse pas, mais dire que c'est pas important, c'est au cœur du modèle allemand, du modèle suédois. Donc, si vous voulez, regardez le problème. C'est la proposition numéro 3 dans l'accord, ou numéro 4 dans l'accord PS-LFI. D'ailleurs, ce n'était pas dans le programme LFI, c'était uniquement dans le programme PS. Ce qui montre qu'il y a eu le début d'une hybridation. Et par rapport à ce que disait Thomas Legrand à l'instant, je pense que cette discussion montre au moins que, enfin, on peut sortir effectivement d'un espèce de comportement vertical où chacun a raison tout seul. Et de toute façon, l'accord fait qu'aucun parti, et pas la France Suisse, ne peut avoir la majorité tout seul vu la répartition des circonscriptions.
Donc ça oblige à la discussion. Réponse de Dominique Seux, il faut aussi qu'on parle de la question européenne dans cet accord tel qu'il a été validé.
Non, mais on est dans une situation d'abord très différente parce que je ne suis pas, je suis un commentateur, mm-hmm. Je ne suis pas impliqué dans un des deux camps, et donc je ne suis pas là pour défendre Emmanuel Macron. Ce mm-hmm. que je vous dis simplement quand même, c'est que vous ne pouvez pas dire que le programme d'Emmanuel Macron n'est pas connu, c'est celui qui a été présenté à la présidentielle.
Il est moins détaillé. Je dis, il est plutôt moins détaillé.
Que la page et demie
c'est terrible à dire, mais oui.
Il a été débattu, il y a même eu un débat d'entre deux tours, il y a eu un certain nombre de choses, donc vous ne pouvez pas dire les Français sont censés le connaître.
Par exemple, les retraites, vous avez parlé, là, il y a des différences entre les deux programmes.
Non, mais c'est quand même hallucinant sur la retraite. C'est-à-dire, vous avez un parti socialiste qui disait on maintient les 62 ans et on ne progresse pas jusqu'à, on n'augmente pas jusqu'à 64 ou 65 ans, comme le propose Emmanuel Macron. Vous avez un programme là, trois semaines après, qui dit on revient à 60 ans. Ce sont des dizaines de. Attendez, non, laissez-moi
juste répondre tranquillement là-dessus.
On va laisser terminer Dominique et vous répondrez après Thomas.
Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui sont en jeu. Évidemment, toute la question, il n'y a aucune précision à ce stade, donc on ne sait pas quelle est la durée de cotisation. Ouais. Est-ce que c'est le calcul à nouveau sur les 10 meilleures années, les 25 meilleures années? Il n'y a aucun détail. On dit simplement les 60 ans. Ça n'a aucun sens comme ça. Donc comment deux partis qui ont eu des... Parti socialiste, qui a une histoire longue sur cette affaire-là, qui a notamment allongé la durée de cotisation dans le quinquennat de François Hollande, peut simplement signer en une phrase ce type de choses. C'est invraisemblable.
Réponse sur les retraites, mesure que Jean-Luc Mélenchon chiffre à 20 milliards la retraite à 60 ans pour tous.
Revenons sur le fond. Dans les accords là, entre les partis de gauche, s'engage sur la retraite à 60 ans, mais avec une certaine durée de cotisation. Donc là, il faut regarder. Là, ils ne se sont pas mis d'accord sur la durée de cotisation. Alors, pour les insoumis dans la campagne, c'était 40 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Pour les Verts, les socialistes, c'était plutôt 41-42. Dans tous les cas, on voit bien que la retraite à 60 ans, ça ne concerne évidemment pas tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui ont commencé à travailler, mettons, à 22 ans, à 23 ans, par définition, ils doivent attendre au moins 62, 63 ans et plutôt 64, 65 ans pour prendre leur retraite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très clair là-dessus, sur le fait que la retraite à 60 ans... Attendez, laissez-moi finir, Dominique, s'il vous plaît. La retraite à 60 ans, par définition... C'est uniquement pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, qui ont commencé à travailler tôt, en tout état de cause. Mmh. Et or, il se trouve qu'il y a un dispositif carrière longue dont le président de la République dit qu'il le maintient, qui permet justement de partir à 60 ans et de carrière longue. La différence, c'est que dans la proposition d'Emmanuel Macron, ceux qui commenceront à travailler à 20 ans, eux, ils devront cotiser 45 ans, effectivement, pour attendre 65 ans la retraite à taux plein. C'est quelque chose qu'il a dû reconnaître.
Ce n'est pas ce qui est marqué dans l'accord. Ce qui est marqué dans l'accord, c'est le droit à la retraite à 60 ans pour tous et toutes.
En fonction de la durée de cotisation.
C'est pas marqué.
Écoutez, oui, mais là, il faut que vous regardiez les programmes plus détaillés. C'est 40 ans chez les insoumis, 41 ans, 42 ans.
Oui, mais il n'y a pas d'accord global pour l'instant.
Non, mais par définition, c'est au moins 40 ans. Donc, par définition, pour tous ceux qui font des études, c'est 62, 63, 64. Je veux dire, sur les retraites, Emmanuel Macron a enfin précisé, juste avant la présidentielle, dans un entretien avec Anne-Sophie Dapic sur France 2, que chacun peut aller voir, sur le fait que ceux qui commenceront à travailler à 20 ans devront cotiser 45 ans pour avoir leur retraite à 65. Alors, ceux qui commencent à travailler à 22 ans devront cotiser que 43 ans. Pourquoi? Pourquoi ceux qui commencent à mais sauf que ça, là, pour le coup, les précisions, parce que Dominique, vous vous inquiétez qu'il n'y ait pas assez de précisions. Et moi, je suis d'accord avec vous. Mais là, pour le coup, le programme d'Emmanuel Macron est encore moins précis. Je suis désolé.
On va en rester là.
Donc, vous êtes d'accord que c'est 45 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans?
C'est 64 ans.
Dominique et Thomas, on va en rester là sur la question du programme. Thomas Piketty, on va en rester là sur la question du programme économique. À gauche, on aura l'occasion d'en reparler d'ici les législatives. Il y avait d'autres sujets à aborder, notamment l'Europe. On y viendra. Deuxième sujet que je voudrais vous soumettre ce matin, la remontée des taux d'intérêt. La remontée des taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a reconnu que ce sujet était le premier sujet de préoccupation économique. En ce moment, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt d'un demi-point. Ça n'était pas arrivé depuis 22 ans. Quelles vont être, Dominique, les conséquences de cette décision?
C'est une décision absolument considérable. C'est-à-dire que c'est vraiment un virage par rapport à tout ce qu'on a connu depuis deux décennies, enfin une grosse décennie, qui est un monde de taux d'intérêt bas, ça veut dire que les taux d'intérêt vont remonter à peu près partout, à des rythmes différents, que ce soit dans la zone euro ou aux États-Unis, et c'est le cas aussi au Royaume-Uni. Les taux de crédit immobilier ont déjà augmenté en France, et vous avez déjà un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus emprunter à des durées sur moins de 15 ans, par exemple. Parce que les taux d'intérêt, ça remonte. Pour l'instant, ils donnent l'impression d'être bas. Mais ça va continuer avec une inflation qui est de 8% aux États-Unis, qui est de 7% à la zone euro, qui est de 4,5-5% en France. Et donc, ça modifie considérablement le paysage économique. Et il va avoir un arbitrage à faire entre la lutte contre l'inflation et la préservation de la croissance. Il faut... Et la grande question, c'est de savoir est-ce que le lacet va se resserrer autour de tous ceux qui ont parié sur le fait que les taux d'intérêt allaient rester éternellement bas, c'est-à-dire les entreprises, les États, bien évidemment. Est-ce que le lacet va se resserrer autour de finances publiques qui ont été quand même gérées de manière très expansive ces dernières années? Le paysage, franchement, bouge.
Est-ce que cette mesure prise par la Fed, Thomas Piketty, va être efficace?
Ah, ça, c'est autre chose. Alors, le vrai sujet pour l'instant, c'est quand même l'inflation. C'est-à-dire, je veux rappeler quand même, le taux d'intérêt de la Fed était de 2% en 2019, il est tombé à 0, là il remonte à 1, sauf que l'inflation entre-temps, enfin même il était à 2,5 le taux d'intérêt de la Fed en 2019, le taux d'inflation à l'époque était à 2, aujourd'hui le taux d'inflation est à 8, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal moins l'inflation, est beaucoup plus bas, il est très négatif, il n'a jamais été aussi négatif.
Il y a encore 4 réunions de la Fed d'ici la fin de l'année.
Oui, mais moi je vous fais le pari qu'on restera très en dessous du taux d'inflation. Alors, pour l'instant, le vrai sujet, si vous voulez, c'est vraiment l'inflation qui, pour le coup, ampute non seulement les revenus, les pensions, les salaires, mais aussi l'épargne populaire. C'est-à-dire, vous avez tous les livrets d'épargne des personnes qui, voilà, ont économisé 10 000 euros, 20 000 euros, qui vont se faire ponctionner, là, en France, 5%, peut-être encore 5% l'année suivante, 10%, c'est comme un impôt très lourd sur l'épargne populaire. Et je pense que là, il y a vraiment une réflexion à avoir pour compenser les personnes. C'est-à-dire, non seulement on parle de l'indexation des pensions...
Comment on peut faire ?
Si vous voulez, là, je pense qu'il faut être imaginatif. C'est-à-dire que si on veut indexer, par exemple, les basses retraites, les bas revenus, il faut aussi penser à comment on peut préserver l'épargne populaire dans un contexte, je suis désolé de le rappeler, mais où les plus hauts patrimoines, eux, ont progressé de façon vertigineuse. Mmh. C'est-à-dire qu'entre 2010 et 2022, on a une augmentation, enfin, rien que les 500 plus grandes fortunes de France. Je suis désolé, Dominique, je sais que vous n'aimez pas que je parle de ça, mais ça fait 700 milliards d'euros de progression, c'est 10 000 euros par Français. C'est-à-dire, si simplement on revenait au niveau des milliardaires de 2010, ça ferait 10 000 euros par Français pour compenser l'épargne populaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sujet, quand même, des taux d'intérêt et de l'inflation, voilà, il faut voir, ça va créer, là je suis d'accord avec vous, Dominique, ça va créer des enjeux économiques, sociaux, des conflits autour de la répartition des perdants et des gagnants, dont on ne parle pas assez dans cette campagne.
Aussi budgétaires, la hausse des taux d'intérêt, ça veut dire que les intérêts de la dette vont nous coûter plus cher à rembourser.
Ah ben, dans tous les pays, ça va fonctionner comme ça. Mais le sujet économique majeur, c'est il y a l'épargne dont vient de parler Thomas Piketty, mais c'est la question des salaires. Dans quelle mesure les salaires vont suivre ou pas, en partie ou complètement, les prix? Et la grande question, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est de savoir si les entreprises qui le peuvent sont capables de faire aujourd'hui un certain nombre de rouvrir un certain nombre de négociations dans les entreprises, et ce serait souhaitable.
En creux, je comprends que ça va être difficile, Dominique.
La situation, le paysage aujourd'hui, nous avons une Chine qui est arrêtée à cause du Covid, nous avons des États-Unis qui sont sous une menace de l'inflation et une guerre dans l'Union européenne, enfin aux portes de l'Union européenne, à 1200 km de Strasbourg. Nous avons un paysage économique qui est en train de bouger, et je suis assez effaré que les débats économiques aujourd'hui portent sur des choses qui ont l'air un peu figées quand même.
Merci à tous les deux, Thomas Piketty, Dominique Seux, pour ce débat éco du vendredi. On aura évidemment l'occasion de revenir à la fois sur le programme économique de cette alliance à gauche, et puis sur l'inflation, les taux d'intérêt et les impacts pour les Français dans les prochaines semaines. France Inter.